Monaco avec le Secours Islamique France. Vos dons changent des vies. Agissez aux côtés du Secours Islamique France. Ramadan, votre générosité fait toute la différence.
17h-20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM. Beurre FM, sur les traces du prophète Abdelali Mamoun.
C'est la deuxième semaine de ce mois de Ramadan et nous marchons tous les soirs sur les traces du prophète. Bonjour à tous et bienvenue. Une histoire que nous raconte avec beaucoup de passion l'imam Abdelali Mamoun. Bonsoir imam Abdelali.
Bonsoir Philippe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan mubarak kareem li jami'a. Allah yitqabbal minna minkum salih wal a'mal.
Avec beaucoup d'informations et des informations qu'on ne connaissait pas forcément sur la vie du prophète que vous partagez avec nos auditeurs, imam Abdelali. Alors, il a 35 ans et un ouragan détruit la Kaaba, imam Abdelali. Si vous voulez bien remonter sur votre fauteuil, ça sera mieux. Ah, parce que vous n'avez pas vos lunettes.
Oui, tout voilà. À fait.
On va partager avec les gens. En fait, oui.
Le direct.
Alors oui, d'accord. Ah, j'ai cru que vous aviez tout dans votre tête.
Ah, j'ai tout dans ma tête, mais il y a le fil à respecter.
D'accord.
Il ne faut pas faire tout n'importe comment.
Bien. À 35 ans, un ouragan donc détruit la Kaaba. Et il va participer à sa reconstruction et résoudre un conflit.
Alors, en effet, le prophète vit tranquillement avec sa femme. Il a même des enfants. Elle lui donne des enfants, notamment 6 beaux enfants. Durant ces 10 années qui suivent son mariage avec Khadija, elle lui donnera 6 enfants. Donc, Zainab, Ruqayya, Umm Kulthoum. Donc, c'est les 3 filles. Et, quatre filles et 2 garçons. Donc, Zainab, Ruqayya, Umm Kulthoum et Fatima. Et pour ce qui est des garçons, c'est Al-Qasim et Abdullah, qu'on surnommait aussi At-Tahir ou bien At-Tayyib. Donc, c'est la période où le prophète vit tranquillement sa vie de père de famille, qui voit ses enfants arriver les uns derrière les autres. Il est heureux, il est content, tout va bien. Il vit tranquillement à la Mecque. Il n'est ni prophète, ni rien du tout. Rien ne suppose que l'avenir qui l'attend sera particulièrement houleux. Si ce n'est justement cet événement climatique assez houleux, assez chaotique.
On peut dire que c'est houleux.
Oui, c'est chaotique. C'est un ouragan qui vient, quand il a 35 ans, le prophète, saccager la ville de la Mecque et notamment vient tout simplement détruire en grande partie le sanctuaire de la Mecque qui à l'époque était construit avec de la terre cuite. Hein. C'était des matériaux assez fragiles. Et donc la Kaaba ne résiste pas à cet ouragan qui détruit...
Mais la Kaaba de cette époque, c'est la même que du temps du prophète Ibrahim ?
Alors oui, bien sûr.
C'est la même.
C'est la même.
Avant l'ouragan, c'est la même qui est là. D'accord.
Qui avait été construite par Sayyidina Ibrahim.
D'accord.
Bien entendu, au fur et à mesure des années qui passent, à chaque fois que la mosquée ou le sanctuaire se s'effrite ou bien se fragilise, hein, les fidèles sont là pour rafistoler, pour, on va dire, c'est-à-dire, on va dire, réparer les éventuelles fissures de la bâtisse. Et donc, à partir de là, lors de cet ouragan, c'est pas qu'un peu, c'est toute la Kaaba qui est complètement détruite. Donc, qu'est-ce que les Mekkois décident ? Ils se réunissent notamment à Dar Nadwa, qui est le fameux parlement des notables de la Mecque, hein, qui réunit les notables, les seigneurs de la Mecque, de toutes les grandes tribus mekkoises, les Taïm, les Makhzoum, les Omeyyades, les Hashimites, etc. Et ils décident ensemble, d'un commun accord, de détruire l'intégralité de la Kaaba et de la reconstruire avec des pierres, c'est-à-dire avec des roches, avec de la roche, du granit, quelque chose de solide, qu'ils vont ramener dans les alentours de la Mecque. Et ils vont donc chercher cette roche, ils vont la tailler et ils vont en faire des vraies briques, hein, des briques très costauds et très solides. Et c'est avec cette roche-là que la Kaaba va être intégralement reconstruite par les habitants de la Mecque. Et le prophète, bien entendu, contribue lui aussi, participe aussi à la reconstruction de la Kaaba. Et donc, pierre après pierre, l'édifice commence à prendre forme, il se surélève. Au début, il n'avait pas de toit. Là, il va véritablement avoir un vrai toit, un toit en bois. Donc, c'est des morceaux de bois qui vont faire office de toit dans lequel la Kaaba aura véritablement C'est-à-dire où ce qu'on pourra, nous pourrons suspendre, pourront seront suspendus les, notamment les poésies des grands poètes arabes à l'époque qu'on appelle en arabe le mu'allaqat, hein, ceux qui pendant la jahiliya, c'est-à-dire la période anté-islamique avant l'avènement de l'islam, suspendaient leur poésie. Il y en avait 7, ensuite il y en a eu 10. C'était les plus grands poètes d'Arabie dont leur poésie était, on va dire, défiait l'éloquence et la rhétorique arabe. Donc à partir de là, quand la Kaaba est construite, les Mécois se retrouvent face à un élément qui est la pierre noire. La pierre noire, que doit-on faire de la pierre noire? Qui aura le privilège?
On rappelle à tout le monde ce que c'est que cette pierre
noire. C'est une pierre qui à l'origine était blanche, qu'on appelait Al-Hajar al-Assad, la pierre du bonheur pur, al-Assad. Et qui avait été fait descendre du ciel par l'archange Gabriel pour que ceux qui procèdent à cette circumambulation, c'est-à-dire cette rotation autour de la Kaaba, et qui passent par la pierre noire, chercheront à se purifier de leurs péchés en mettant leurs mains ou en embrassant cette pierre. Hein, il s'agit de l'embrasser. Ils savent qu'elle vient du paradis, c'est une pierre qui vient du paradis et qu'elle est donc sacrée. Donc chacun veut avoir le privilège de la poser à sa place, de la remettre là où est-ce qu'elle était, puisqu'elle est par terre. Elle a subi notamment donc les dégâts de cet ouragan, et chacun veut avoir le privilège de le faire. Donc voilà, il dit non, c'est nous, on a plus le droit. Et ils vont jusqu'à, ils en arrivent aux mains, ils en arrivent même aux armes. Des hommes sont blessés parce qu'ils se bagarrent, parce qu'ils sont obligés de guerroyer pour avoir le privilège de déposer la pierre noire. Alors, à la fin, ils disent, bon, arrêtons, les vieux sages se réunissent, ils disent, bon, écoutez, on va faire un truc, c'est que le premier homme qui rentrera dans la Kaaba, c'est lui qui tranchera pour nous. Et Allah a voulu que ça soit Sayyidina Muhammad, le prophète de l'islam, futur prophète de l'islam, qui entre à ce moment-là, il a 35 ans, et qui, donc, ils lui disent, Ya Muhammad, tu es quelqu'un de sage, tu es le véridique, digne de confiance. As-tu une solution pour régler ce conflit entre les tribus arabes de la Mecque? Et là, il leur dit, écoutez, oui, moi j'ai une solution. Qu'est-ce qu'il fait? Il apporta une étoffe de tissu et il posa la pierre noire sur l'étoffe. Donc il prit la pierre noire, il la posa sur l'étoffe. Et il dit au chef de tribu, chacun d'entre vous prendra une extrémité de l'étoffe. Et chacun donc souleva la pierre noire d'un côté, chacun d'une extrémité de l'étoffe, et chacun donc eut le privilège de poser la pierre noire à sa place. Quand ils arrivèrent à la pierre noire, et le côté où est-ce qu'il fallait diriger se rabaissa, et le côté inférieur se souleva, ce qui fait que la pierre noire roula, et le prophète termina et acheva le fait de la poser là où est-ce qu'elle devait être posée, et c'est finalement Sayyidina Muhammad qui, sallallahu alayhi wa sallam, l'a posée à sa place. Donc voilà comment a été résolu ce conflit, ce litige des Mécois. Et là, il comprit qu'il avait véritablement un rôle à jouer dans ce bas monde. Donc qu'est-ce qu'il décide? Il essaye de comprendre ce qui se passe, la raison de son existence dans ce bas monde. Et il décide de pratiquer le tahannus, c'est-à-dire l'isolement, la retraite spirituelle, en haut d'une montagne qui s'appelle la montagne de la lumière. En arabe on dit Jabal al-Nur. Et en haut de cette montagne, il y a une grotte qu'on appelle Ghar Hira. Il a 35 ans. Et durant ces 5 années, où est-ce que bien entendu il a récolté énormément d'argent, sa femme elle est richissime, puisqu'il a fait plus, il a voyagé, il a ramassé beaucoup d'argent, il a fait beaucoup de commerce, sa femme est devenue riche, ils n'ont plus besoin de travailler. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il part dans cette montagne, il reste quelques jours. Ensuite, quand il voit que ses provisions se tarissent, il descend à chez lui et récupère. Bien entendu, il reste encore quelques jours pour se reposer, pour enfin repartir une seconde fois et une troisième fois et ainsi de suite.
Avant il n'avait pas l'habitude de s'isoler dans cette grotte.
Non, il ne pratique pas l'isolation, le tahannuth, firar hira. C'est seulement qu'à partir de 35 ans qu'il commença à pratiquer cette retraite. Cette retraite. Donc, 5 années passèrent. Il a maintenant 40 ans. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était en méditation dans la grotte, il regardait dehors, il y avait la ville de la Mecque devant lui. Vous savez que quand vous montez à Ghar Hira, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous avez un panorama sur la Mecque qui est magnifique. On est à plus de 600 mètres d'altitude. C'est magnifique, hein. C'est quelque chose. Les gens, quand ils montent là-bas, déjà, ils mettent un bout de temps pour y arriver, alors qu'ils ont construit déjà des escaliers. Là, pour l'instant, ce qu'ils ont construit tout en bas de la montagne, c'est le musée de la révélation, ce qu'on appelle Mathaf al-Wahi. C'est tout récent, là, je te parle, Philippe, là, en 2024, tout récent. Eh bien, en bas de la montagne, il y a maintenant une montagne qui s'appelle la montagne. Il y a un musée, excuse-moi, qui s'appelle le musée de la révélation et qui rappelle toute cette histoire qui a eu lieu en haut de la montagne de la lumière.
Avec des marches donc qui permettent d'accéder.
Tout à fait. Énormément de gens montent là-haut.
De la grotte.
Il y a même des.
Elle ressemble à quoi cette grotte?
C'est tout petit. Ouais. C'est assez exigu. Voilà, il y a rien de particulier. On a la possibilité de se lever. On peut même prier. Il y a suffisamment de hauteur pour qu'un homme puisse se lever debout. Mmh. Et donc, le prophète va, commencer à méditer dans cette grotte-là. Il va méditer pendant ces 5 années, jusqu'au jour où Dieu voit qu'enfin cet homme-là est prêt à recevoir la révélation.
On reviendra sur la période de la révélation demain. Mais je voudrais qu'on termine sur la pierre noire. Aujourd'hui, sur cette pierre noire à la Kaaba, qu'est-ce qu'il en reste de cette pierre noire dont vous nous parliez tout à l'heure, qui était en un seul morceau. Hein.
Tout à fait, c'était une grosse pierre noire, ouais. Une sorte de météorite du ciel, hein, qui était. Alors au début, elle était blanche, comme je disais, et ensuite, d'après le prophète, elle aurait été souillée et noircie par les péchés des hommes, des humains, puisqu'à chaque fois que quelqu'un la touche, eh bien, la pierre noire aspire les péchés. Et elle-même s'imprègne des péchés et se noircit.
Alors aujourd'hui, elle est toujours en un seul morceau?
Non, elle n'est plus en un seul morceau, puisqu'à partir du 3e siècle, à la fin du 3e siècle de l'ère musulman, du calendrier musulman, une tribu venue de l'est de l'Arabie, notamment du Bahreïn, qu'on appelle les Karmates, Al-Qaramita, eh bien, vont tout simplement saccager la Mecque. Ils vont venir massacrer la population mécoise, vont tuer les pèlerins et vont rester là-bas, régner pendant 23 ans. Pendant 23 années ou 22 ans. 22 ou 23 ans. Ils vont régner là-bas et ce sont véritablement des tyrans, des hommes incrédules, notamment des apostats, des infidèles, qui vont même défier Dieu en lui disant « Oh Dieu, oh Allah, puisque tu prétends protéger ta Kaaba, envoie-moi les oiseaux, tu sais, comme le jour de la nuit de l'éléphant. » Ils vont le défier. Et donc, c'est ainsi que, au bout de 22 années, un calife va venir et va tuer les Karmates et va récupérer la pierre noire, sauf qu'elle aura été cassée en 7 petits morceaux. Et il en restera 7 petits morceaux qu'ils vont être aujourd'hui rassemblés à l'intérieur de la pierre noire et imprégnés dans une résine noire. Aujourd'hui, la pierre noire est intégrée dans une résine noire très solide.
Et on peut la toucher toujours?
On peut la toucher, d'accord. Mais on touchera des petits morceaux.
Ouais,
ça sera des petits morceaux que vous allez embrasser quand vous allez embrasser la pierre noire. Voilà pour ce qui est de l'histoire de la pierre noire. Et le prophète dit, celui qui la touche et l'embrasse avec sincérité, elle sera pour lui une intercession le jour de la résurrection. Dieu lui donnera des yeux, une langue et une bouche. Il lui dira, oh mon Dieu, j'intercède en sa faveur, fais-le rentrer au paradis. C'est pour cela qu'énormément de gens aujourd'hui se bousculent pour embrasser la pierre noire.
L'imam Abdelali ne veut pas rendre l'antenne aujourd'hui, mais vous êtes avec nous jusqu'à l'Aden aujourd'hui. Comme tous les soirs, Imam Abdelali, vous réécouterez cet épisode en podcast sur beurrefm.net. Et si vous avez une question à poser à l'imam Abdelali Mamoun, je vous rappelle que vous composez le numéro du standard de beurrefm, 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. Allô l'imam, c'est dans un instant.
Ramadan & Co revient dans un instant.
Suivez Ramadan & Co avec le Secours Islamique France.
17h-20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
Et Ramadan & Co, c'est pendant 30 jours, pendant tout ce mois de Ramadan. Bonsoir, bienvenue, bon Ramadan à tous. Bonsoir Imam Abdelali.
Bonsoir Philippe, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ravi d'être encore une fois avec toi Philippe et toute l'équipe de Beurre FM. Pour continuer, inchallah, notre élan en vivant ce Ramadan, inchallah, dans la spiritualité et la fraternité, inchallah.
Bon, je vous rappelle le début de l'émission, vous le connaissez, vous posez toutes vos questions à l'imam Abdelali Mamoun, c'est à Allo l'imam au 01 53 48 3000, toutes vos questions religieuses bien sûr à l'imam Abdelali Mamoun, 01 53 48 3000. Et puis après, vous rendez-vous à 18h. Nous retrouverons Kamel Chekat pour cette chronique. Et à 18h20, nous retrouverons Ousmane Timéra, qui, à mon avis, est sur son vélo parce qu'il est en retard, Ousmane, ce soir.
Ouais, bah écoute, je pense qu'il est motivé pour faire du sport, là. Ouais. Que ce soit le jour et le soir, là. Sadna Ousmane, la jazir.
Moi, quand je suis arrivé tout à l'heure, l'imam était en train de préparer une salade de tomates.
Une salade. Oui. Une salade avec de la laitue, tout ça.
Il y avait
de la
tomate.
Salade, laitue, il y avait aussi de la mozzarella, il y avait ouais. Quoi d'autre, des oignons crus, des oignons frais. Tu sais, les oignons crus, là, frais.
Ce qui veut dire que vous êtes multitâche.
Eh ben, il faut.
Vous êtes polyvalent, imam.
Dans la ville, le prophète sallam kana fi khidmati ahlihi, était au service de sa famille. Comme le dit le hadith, kana khitu thawbahu, il arrivait même à coudre ses vêtements, il arrivait à nettoyer, même parfois, il faisait un petit peu le ménage à l'intérieur de là où il habitait, hein, de son appartement, de ses appartements. Donc, comme le dit très bien Oumouna Aïcha, radiallahu anha, qu'il était au service de sa famille. C'était un bosseur à la maison. C'est pas le feignant qui vient et il s'allonge sur le canapé avec son journal et encore, maintenant c'est le portable, et il met les pieds sur la table. Non. Un musulman, c'est quelqu'un qui bosse, qui donne un coup de main à madame. Il faut pas hésiter à mettre la main à la pâte.
Allez, Lydia est avec nous.
Je sais que tout le monde ne va pas m'aimer.
Moi, je suis d'accord. Je vous encourage, Imam Abdelali.
Merci.
Voilà, 01 53 48 3000. Nous avons Lydia qui est avec nous. Bienvenue, Lydia, et bon Ramadan.
Bonjour, merci beaucoup pour Ramadan, vous aussi. Ramadan,
Moubarak, Karim, Ukhti Karima. Marhaban. On vous écoute, votre question.
Alors, j'ai une question, mais qui n'a du coup rien à voir avec ce que vous avez dit. En fait, je me posais la question aujourd'hui, vu que je suis à l'école. Et en fait, c'est très compliqué pour moi de prier à l'heure, et en sachant que j'ai pas envie de rattraper toutes mes prières que je fais à l'école. J'aurais préféré les faire à l'école, sauf que l'école, c'est compliqué pour prier.
Et vous êtes toute la journée à l'école ou vous êtes à midi à la maison?
Comment?
Vous rentrez à la maison à midi?
Non, je rentre pas à la maison à midi, justement.
D'accord. Mais quand vous dites toutes les prières, c'est derrière Dhuhr al-Asr, c'est tout, il n'y a pas d'autres prières.
Dhuhr al-Asr.
D'accord. Est-ce que vous arrivez à venir à la maison avant le maghrib, avant le coucher du soleil?
Pour aujourd'hui, là, je suis déjà en route, je suis en train de rentrer. Mais je me posais la question pour Dhuhr et Asr, parce qu'il y a des fois où il y a des jours, je suis à l'école.
Non, mais vous priez pas à l'école, hein, puisque vu que aujourd'hui l'école est le sanctuaire de la laïcité et que y a un devoir de neutralité imposé, y compris aux enseignants qu'aux élèves. Donc vous ne pouvez pas prier à l'école, mais dès que vous arrivez à la maison, vous faites vos ablutions et vous priez Dhuhr al-Asr, normal.
Ah bon, je suis pas obligée. Enfin,
obligée de faire
je
quoi?
Je ne prends pas de péché.
Non. Dès que vous arrivez à la maison, c'est Dhuhr al-Asr tout de suite.
D'accord.
Dès que vous traînez pas, vous restez pas à rien faire, faire autre chose. Tout de suite, vous allez dans la salle de bain faire vos ablutions. Au salli tawda, au salli dhahrak ou asr, inshallah.
D'accord.
Hayya rabbi harak. Qu'Allah vous préserve, inshallah.
Merci, Lydia.
Merci.
Alors, Omar est avec nous au 01 53 48 3000. Omar, bonjour, bienvenue et bon ramadan.
Omar.
Pardon.
Omar, salam alaikum, marhaban, Omar.
Salam alaikum,
wa alaikum salam, marhaban, akhi.
Donc voilà, j'avais une question aujourd'hui. Je peux pas faire le ramadan.
Mmh.
Et je voulais savoir quelle était la fidia que je vais.
Alors, ta maladie, elle est incurable ou elle est guérissable? C'est-à-dire, un jour tu vas guérir, hein?
Non, j'aurais bien voulu, Inch'Allah. Pourquoi pas, de toute façon.
Non, mais les médecins sont optimistes ou plutôt pessimistes? C'est-à-dire, est-ce qu'ils pensent que la maladie va guérir?
Non.
Est-ce qu'on a le droit de connaître c'est quoi la maladie?
Bien sûr, donc je suis diabétique insulino-dépendant.
Ah d'accord, ok, vous n'êtes pas concerné par le jeûne.
Depuis 1990.
Ok, d'accord.
Depuis 1990.
Et comment vous faites tous les ans?
Tous les ans, donc je donne la fidia, mais la fidia, chaque année ça change, c'est pour ça que je comprends
non,
pas.
Non, chaque année elle change pas, ça fait un moment qu'elle est à 5 euros, mais c'est vrai que cette année, vu l'inflation, on peut ajouter 1 euro par jour. Donc si vous mettez 6 euros, c'est bien.
D'accord. Il y a une chose quand même que j'ai regardé sur le net, hein. Donc il parle de l'article. Excusez-moi, c'est pas l'article. C'est comment on appelle ça? C'est un verset du Coran. Le verset, je crois, 183, surat numéro 2.
Oui, la surat al-Baqara.
Il parle donc, il parle donc de 2 euros jusqu'à, donc on peut aller de 2 euros jusqu'à 7 euros.
Ouais, c'est ce qu'on appelle la fidia. Pourquoi on ne va pas tergiverser en sortant les versets de Sourate al-Baqara? Moi, je peux vous lire le verset. Hein. On l'a même déjà lu plusieurs fois. Hein. Le verset, il dit: wa 'alal ladhina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin. ومن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. Pour ceux qui ne peuvent pas jeûner, ils doivent s'acquitter d'une fidia. La fidia, c'est l'équivalent d'un repas. Donc le débat sur ce combien coûte un repas, c'est ça le débat. Ben, il y en a qui disent que c'est 2 €, il y en a qui disent 3 €, il y en a qui disent 4 €. Bon, écoutez, l'année dernière, on avait fait une moyenne de 5 €, mais vu l'inflation, moi je pense qu'on peut aller jusqu'à 6 €. Voilà, si vous pouvez pas, vous pouvez pas, si vous avez pas beaucoup de moyens, vous pouvez vous limiter à 2-3 €. Voilà, ça passe. Selon vos moyens, Inch'Allah. D'accord ?
Inch'Allah, d'accord. Merci beaucoup, Al-Hajj.
Je vous en prie, ma soeur, mon frère.
Salam alaikum. Manel est avec nous au 01-53-48-3000. Manel, bonjour, bienvenue et bon ramadan.
Bonjour. Merci, salam alaikum.
Wa alaikum, salam wa rahmatullah.
Marhaba. J'ai deux questions à poser.
Moi, je me suis assise. Mmh. Et mon mari. Anti-marida? Vous êtes malade pour.
J'ai fait une opération au ménisque interne. J'arrive pas à plier le genou ni mettre à genoux. En fait.
D'accord, ok. Donc vous ne pouvez pas. Qui... Oui, mais vous pouvez rester debout. Est-ce que vous arrivez à vous lever?
Oui, bien sûr, oui. Debout.
Donc vous ne pouvez, après, vous ne pouvez pas prier assise. Vous devez prier debout. Et après, au moment du recours, vous devez vous faire le recours, normal. Et pour le sojoud, là, vous vous asseyez sur la chaise qui était, que vous avez mis derrière vous.
C'est ça, oui. Mais mon problème, c'est que mon mari, il prie avec moi en même temps, Salat al-Maghrib.
Ouais.
Donc, je suis devant, parce que je prie au bord du lit, et mon mari, il est à côté de moi, je suis juste un peu devant lui.
C'est lui l'imam ?
Non, chacun, il fait la prière tout seul.
Et pourquoi ?
Avant on prie ensemble quand je prie normal, mais maintenant quand je m'assois au bord du lit, donc chacun fait sa prière.
Vous avez pas de chaise?
Parce que j'ai pas de place dans la chambre pour prier.
Non mais vous avez pas une autre pièce, vous avez qu'une seule pièce.
Est-ce que, et moi ce que je pose la question, est-ce que salat sahiha ou alay, comme on est pris presque à
vous
côté,
me répondez
en fait.
Pas ma soeur, est-ce que vous avez la possibilité de prier sur une chaise dans une autre pièce où votre mari serait devant et vous derrière? Voilà l'idéal que je vous propose.
D'accord, je vais faire ça, mais est-ce que salat sahiha ou alay, qu'est-ce qu'on a fait?
C'est-à-dire que vous priez devant et lui il est derrière, mais chacun séparément?
Non. C'est-à-dire on est à côté et moi je suis juste un peu devant lui.
Voilà, mais chacun tout seul.
Oui, chacun tout seul.
Oui. Bah oui, la prière elle est valable, mais moi je vous dis idéalement, c'est de prier ensemble, comme ça vous avez l'ajr jamaa, vous avez les récompenses de la prière collective. Wa indik 27 daraja khair min salat al-fard. Et tsalli ma'a rajlik khalf zawjik, huwa yitqaddam amam, ya'mal sijada qudamah, wa anti murah, vous mettez une chaise derrière vous et vous priez derrière votre mari, il y a aucun problème.
Oui, avant on priait ensemble, mais depuis que j'étais opérée, donc c'est pour ça.
Mais il faut pas arrêter. Pourquoi, même si vous avez été opérée, c'est pas, il y a pas une raison de vous priver de cette jamaa, de cette récompense collective.
D'accord,
inchallah. 25 daraja ila 27 daraja. 27 fois sa valeur.
D'accord. Et excuse-moi, et salat al-tarawih, est-ce qu'elle est obligée pour les enfants ou non? Mon fils, il a 14 ans.
Pour personne. Le tarawih, elle est obligée pour personne. Puisque le tarawih, ce n'est pas une prière obligatoire. Mais maintenant, celui qui veut la prier, il la prie. Celui qui ne veut pas la prier, mais salat al-hash.
Ou salat al-tarawih, quand je le fais toute seule à la maison, sahih,
hazada? Bien sûr, bil'ax, hada huwa sunnah. La sunnah, c'est de la prier seule à la maison. Puisque c'est une prière surérogatoire, je répète la règle. C'est que. Ce qui est fortement recommandé, c'est de prier la prière obligatoire collectivement, c'est-à-dire ensemble. Oui. Et la prière qui n'est pas obligatoire, comme Tarawih par exemple, ou Qiyam al-Layl, ou bien Rak'atay Tahiyat al-Masjid par exemple, ou bien Rak'atayn qabl al-Dhuhr, qabl Rak'atayn ba'd al-Dhuhr. Donc les prières qu'on appelle Rawatib, les prières surérogatoires, Salat al-Fajr par exemple, Sunnat al-Fajr qui avance subh, tout ça, ça se fait individuellement. D'accord, d'accord. Et à voix basse, sauf pour Tarawih ou Qiyam al-Layl, que vous pouvez faire à voix haute.
Pour les femmes aussi, voix haute?
Oui, bien sûr, pourquoi pas.
D'accord.
Oui.
D'accord. Et ma fille, d'accord. Et ma fille, elle a 12 ans, et elle fait un siyam, mais elle ne prie pas.
Et pourquoi?
Elle a le droit de tofter, mais elle n'a pas encore, comment dire...
La puberté, n'a pas atteint la puberté.
Oui, pas encore, oui.
خلاص, انتي حاولي معها تصلي وعلموها الصلاة. ماشي تسنى حتى تبلغ عاد باش تفرضوا عليها الصلاة. علموها من صغرها, Inch'Allah, depuis son enfance, vous commencez à l'inciter, à l'encourager, à l'éduquer à la prière. Comme le dit le prophète, مُرَ أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعَ. À partir de 7 ans, on peut déjà commencer à encourager ses enfants et même les obliger à 10 ans. comme le dit le prophète.
تصلي
لابد ان تصلي معك يعني شوفي راجلك قدام وانتي وبنتك ورا مراه.
ان شاء الله.
D'accord. Elle est debout sur un tapis et vous êtes sur votre chaise tranquille à côté d'elle. D'accord. Derrière votre mari.
Ay
Allah yebarak fik.
Salam
alaykoum. Wa alaykoum salam.
Merci Manel. 19h03 en direct, l'Aden, une exclusivité Beurre FM, Imam Abdelali.
Inch'Allah. Tout à l'heure, c'est à 19h. Combien, Philippe ?
3.
3. Super.
T'as le temps encore.
Oui, ça va, c'est bien. On démarre bien.
Allez, 01 53 48 3000. Allô, l'imam. Jusqu'à 18h, c'est Beurre FM. 01 53 48 3000.
Ramadan & Co. Reviens dans un instant.
Suivez Ramadan & Co avec le Secours Islamique France.
17h-20h. Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
Et à 18h, nous retrouvons Kamel Chekat pour les contradictions supposées du Coran. Pour l'instant, c'est Allo l'imam au 01 53 48 3000. Ousmane Timira nous a rejoint. Bonjour,
oui.
Ousmane.
Bonjour, bonsoir. Que la paix soit sur vous. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je vais très très bien.
Parfait.
Ouais, c'est super.
Et ça se voit, et ça s'entend.
Oui. Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu
salihat.
Inch'Allah alik.
On part en Corse, et c'est Shainez qui est avec nous. Shainez, vous êtes la bienvenue sur Beurre FM, bon ramadan.
Bonjour, bon ramadan à tout le monde.
Bonjour, bon ramadan à toi aussi, ma sœur.
J'avais deux questions, s'il vous plaît.
On y va.
Alors, la première, c'était juste pour savoir, quand je suis au travail, je peux faire la prière du Dor, et je voulais savoir si je peux faire la Asr en même temps ou pas.
Oui. Oui, si vous n'avez pas... Alors, attendez, est-ce que quand vous terminez votre travail, vous rentrez avant le Maghreb ou pas ?
Tout dépend de la saison, mais généralement, oui, j'arrive bien après.
Vous arrivez après le Maghreb ?
Ben là, par exemple, si c'est l'hiver, ben, je peux arriver, je finis à 17h30, j'arrive chez moi à 18h30.
D'accord, alors on va dire les choses, je vais vous répondre de manière. Si vous arrivez avant le Maghreb chez vous, vous devez attendre d'arriver chez vous pour prier l'Asr. Parce que la plage horaire de l'Asr, c'est l'heure de l'Asr jusqu'avant le Maghreb. Vous pouvez prier l'Asr. Donc là, vous n'avez pas besoin d'avancer l'Asr à l'heure de Dhuhr. C'est-à-dire de l'avancer à l'heure de Dhuhr. Par contre, si vous savez que l'Asr, vous ne pourrez le faire que seulement après le coucher du soleil, là non. À ce moment-là, vous priez l'Asr avec Dhuhr. C'est bon ?
Okay.
C'est clair ? Allez, bien, Allah Issal. Allez, au suivant.
Elle avait une deuxième question.
Une deuxième question. Ouais.
Oui,
la question suivante.
Deuxième,
alors.
En cas d'indisposition, si j'ai besoin de lire le Coran, est-ce que je peux ou pas ?
Vous pouvez.
Sur le téléphone, par exemple.
Ah oui, vous pouvez, sur le téléphone, il n'y a aucun problème. Lisez le Coran sur le. Oui, il n'y a aucun problème. Allah Issal. Mais pas, il ne faut pas prendre le mushaf.
Oui.
Il faut éviter de prendre
le mushaf. Oui, il ne faut pas
prendre le mushaf. Ok. Voilà, c'est tout.
Ben, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Merci Shainez. Yacine est avec nous au 01 53 48 3000. Bienvenue et bon ramadan, Yacine.
Merci, salam alaikum à toute l'équipe.
Wa alaikum salam.
Alors moi aussi, cher, j'aurais deux questions à vous poser. Donc la première, c'était par rapport, moi je prie depuis l'année dernière, depuis le ramadan l'année dernière. Et en fait, par rapport au fujr, j'arrive pas à me réveiller pour prier à l'heure. Et en fait, je le prie que dès que je me lève, par exemple pour aller travailler, des fois si je commence à 10h du matin, si je me lève après, ça me casse mon sommeil et du coup... Je sais pas comment expliquer, mais j'ai pas.
D'accord. T'es un couche-tôt ou t'es un couche-tard, toi ?
Je suis un couche-tard.
Ben oui, c'est ça le problème. C'est ça
ouais,
le problème.
Je suis un couche-tard.
Ouais. Il faut d'abord corriger ça. Je te promets que si tu couches tôt, tu te couches tôt comme le faisait le prophète, puisque les compagnons ont décrit le prophète et ils ont décrit par exemple ses conversations du soir, ce qu'on appelle samar, les compagnons ou les gens qui le côtoyaient disaient kana. يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعده. يعني il détestait dormir avant l'Isha et il détestait bavarder après l'Isha. Donc normalement, ça veut dire quoi après l'Isha, il bavarde pas, ça veut dire qu'il rentrait chez lui. Et ouais, voilà, il allait donc rejoindre sa femme et ses enfants ou sa famille et puis il allait dormir. Voilà, il dormait le tôt. Il faut apprendre à réguler son temps de manière à dormir tôt. Si tu dors tôt, tu vas te lever tôt, forcément.
D'accord. Ouais,
mais si tu te couches tard, c'est sûr que le lendemain, t'es dans le coltard, t'es fatigué, tu vas pouvoir te lever. Donc, et puis il faut mettre le réveil et puis te lever, inchallah. Et si tu dors tôt, Khoya, si tu dors tôt, là par exemple, après l'Aïcha, 9h ou 10h, t'es au lit, c'est bon, à 5h, t'es debout et voilà, et c'est bon. Après, t'as même plus besoin de dormir, ça suffit. Mais t'auras tes 6-7 heures de sommeil.
mais c'est considéré comme au niveau d'Allah, c'est considéré comme haram de pas se réveiller.
À partir du moment où on le fait volontairement, la réponse est oui. C'est interdit de retarder ses prières volontairement. C'est seulement si tu n'as pas fait exprès de te lever, de ne pas te lever, à ce moment-là, oui, t'es pardonné. C'est déjà arrivé au prophète une fois de ne pas se lever parce qu'effectivement, ils avaient tardé à cause d'un conflit qu'ils avaient avec une tribu, etc. Donc, il a dormi très tard ce jour-là. Donc, ils se sont réveillés en retard. Et comme le dit le hadith, ils ont été réveillés par la chaleur du soleil. Ma ayqadhahum illa harru shams. Donc ça veut dire khlas, shams tala, soleil est levé, en panique Bilal il se lève, etc. Il sait pas quoi faire. Le prophète dit calme-toi, va faire l'adhan et ensuite tu fais l'odo et ensuite on va faire la prière comme si de rien n'était, comme si qu'on l'avait fait à l'heure. Parce que ça s'est passé involontairement. Mais à partir du moment où c'est volontaire, toi tu t'as un réveil, tu ne mets pas pour dormir, non, tu dois te lever pour faire ta prière avant que le soleil se lève.
D'accord.
C'est avant shorokh. Shorokh c'est la fin de l'heure de l'fajr. De sobre quoi, de sobre.
D'accord. Et juste la deuxième question, c'était pour revenir à la première question qui a été posée par la dame au début d'émission. Concernant pour les rattrapages de prière, par exemple quand on est en voyage ou par exemple quand on va faire les courses et on est par exemple entre l'heure du taul et on rentre par exemple à la maison à l'heure du marlop. Pour rattraper les prières, il faut par exemple pour rattraper le taul et la asal. Chacun faire les 4 à 4 comme c'est prévu.
Non, normalement, écoute, le Coran nous dit quoi? Allah Azza wa Jalla, le Coran nous dit Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière est certes une pratique qui est un temps limité, qui est un temps défini. Kitaban mawquta. Une prescription avec un temps prescrit. C'est ça ce que ça veut dire.
D'accord.
Donc normalement, Dhuhr, il a une plage horaire. C'est-à-dire, c'est l'heure du Dhuhr. Jusqu'à avant l'Asr, ça s'appelle l'heure du Dhuhr. Et à l'heure de l'Asr, jusqu'à le Maghreb, c'est l'heure de l'Asr.
D'accord.
Maintenant, il y a ces jumelles qu'on appelle Dhuhr et l'Asr, que si tu n'as pas le choix que de les regrouper, tu peux les regrouper occasionnellement. Je dis bien occasionnellement, parce que
oui,
tu n'as pas le choix.
Oui,
et le Maghreb, tu peux la regrouper le soir, occasionnellement, parce que tu n'as pas le choix. Tu vas recouper le Maghreb avec l'Isha. Le Maghreb 3 rak'at et l'Isha 4 rak'at. Maintenant, tu es voyageur. Là, c'est une autre histoire. Le voyageur,
d'accord,
là, c'est pas occasionnellement. C'est pendant tout son voyage, il a le droit de regrouper, oui, tant qu'il est voyageur, il regroupe ses prières de Dhuhr et de l'Asr à l'heure de Dhuhr ou à l'heure de l'Asr. C'est-à-dire, il a de l'Adhan de Dhuhr jusqu'à avant le Maghreb pour prier deux rak'at de Dhuhr. En plus, il fait le taqsir. Il va diminuer, d'accord, la quantité, c'est-à-dire les rak'at, le nombre de rak'at de 4, il va passer à 2. Donc, 2 rak'at pour Dhuhr et 2 rak'at pour l'Asr. À n'importe quelle heure de Dhuhr jusqu'à avant le Maghreb. Par contre, il ne faut pas qu'il laisse passer Dhuhr al-Asr après le coucher du soleil. Il faut qu'il ait fait avant le coucher du soleil. Et de préférence à l'heure de l'Asr. Et à la première heure, c'est le meilleur moment. Khayru waqti salat huwa awwalu. Awwal waqti salat huwa khayru waqt. Le meilleur moment.
Merci Yacine. Allez, d'autres appels dans un instant. Allô l'imam au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
Ramadan Enko revient dans un instant.
Suivez Ramadan Enko avec le Secours Islamique France.
17h-20h, Ramadan Enko avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
Et Ousmane Timera qui est sur ce plateau avec nous, Assina est là au 01 53 48 3000. Bienvenue et bon Ramadan Assina.
Bon Ramadan à vous également.
Ramadan Moubarak Karim, marhaban
Ourti. Merci.
Votre question, allez-y.
J'avais une question. Aujourd'hui, je ne me sentais pas très bien. Depuis la fin de matinée, j'avais très mal au cœur. Et je me suis retenue. Et à 4h10, j'ai vomi involontairement. Donc, je voulais savoir est-ce que mon jeûne est
non,
valable.
Non, il est valable, oui, tout à fait. Le vomissement involontaire n'annule pas le jeûne. Le débat et les divergences, c'est si quelqu'un se fait vomir volontairement. Il y en a qui disent que ça annule le jeûne. Al-qay amdan, comme on dit. Al-qay amdan. Le fait de vomir volontairement en mettant, par exemple, un objet ou son doigt au fond de la gorge pour se faire vomir volontairement, chez pas mal de juristes, ça annule le jeûne. Chez d'autres, non. Bon, on va dire que la majorité dire que ça annule. Donc, faut pas s'amuser à se faire vomir pendant la journée du Ramadan.
Non, mais pas du tout.
Et si c'est involontaire, l'unanimité des savants disent que c'est pas, ça annule pas le jeûne. Par contre, si vous êtes malade et que donc, à partir de là, vous ne pouvez pas continuer de jeûner, vous avez le droit de rompre. Et vous rattraperez une date ultérieure. Il n'y a aucun problème là-dessus.
Mm-hmm.
Mais ça n'annule pas mon jeûne. Je peux continuer.
Non, non, vous pouvez continuer. Mais si vous vous sentez mal et vous avez des vertiges, des malaises, etc., et vous avez des douleurs, par exemple, vous avez le droit de rompre, de manger et de prendre les médicaments qu'il faut pour rétablir. Maintenant, attention, je voudrais dire une chose. Il y a des gens qui prennent des médicaments dans la journée et pensent pouvoir continuer de jeûner normalement. C'est complètement absurde. Ça ne sert à rien. Oui. Si vous prenez un médicament dans la journée, c'est fini. Votre jeûne, il est cassé. Ça ne sert à rien de s'abstenir. Oui. C'est une abstinence qui n'a ni queue ni tête, qui ne sert strictement à rien. Mais il y en a qui pensent, qui peuvent faire ça. Ils disent, moi, je mange pas, je bois pas, mais juste à midi, je prends mon médicament. Mais ça sert à rien. Si tu prends le médicament à midi, ta journée elle est donc annulée et ça ne sert strictement à rien de se priver de manger et de boire. Donc si vous prenez le médicament, vous avez le droit parce que vous êtes malade, mais à ce moment-là, autant manger et boire, pourquoi vous priver ? Voilà.
Merci Anissa. Nadia est là. Bienvenue, bon ramadan Nadia.
Oui, allô, bonjour.
Bonjour, bonsoir, salam alaikum.
Bonsoir.
C'est à partir de quelle heure on dit bonsoir Philippe ? 18h c'est ça ? Bon alors, là il reste 4 minutes, vous pouvez dire encore bonjour.
Bonjour à vous et puis bon ramadan à tous les musulmans.
Voilà, ramadan mubarak, allez, marhaban, merci. Allez-y, votre question.
Voilà, j'ai deux petites questions, si c'est possible. Voilà, j'aimerais savoir au niveau des prières, il y a plusieurs unités à faire. J'aimerais savoir, est-ce qu'il faut toutes les faire ?
Comment ça ? Les prières obligatoires ?
Oui, voilà.
Eh bien oui, bien sûr.
Des fois, il y a quatre unités, des fois, il y a deux unités.
Non, alors, sobh, c'est deux unités. À voix haute. Voilà. Adhor, c'est quatre unités à voix basse.
Voilà.
Sachant que les deux premières unités, on les fait quand on est debout avec la Fatiha et une sourate, et les deux dernières avec la Fatiha seulement.
Voilà.
C'est bien pour les novices qui ne connaissent pas encore très bien. Pour l'Asr, c'est pareil que Dhor, c'est la jumelle de Dhor, elle est pareille. Donc deux unités à voix basse avec Fatiha et sourate, et deux unités à voix basse aussi avec la Fatiha seulement. Ça, c'est pour l'Asr. Donc, au total, ça fait 4. Donc, l'Asr 4, Dhuhr 4 et l'Asr 4. Ensuite, vous avez le Maghreb. Deux unités à voix haute avec la Fatiha et Sora. Et une troisième unité à voix basse avec la Fatiha seulement. Et pour l'Isha, c'est deux unités à voix haute et deux unités à voix basse avec la Fatiha seulement pour les deux dernières.
D'accord. Je vous remercie beaucoup.
Voilà.
Merci beaucoup. Et j'avais aussi une autre petite question. Vous savez, pendant le Ramadan, je sais qu'on a le droit de se maquiller, mais je voudrais savoir, pendant la journée, est-ce qu'on a le droit de retoucher le maquillage ou c'est interdit ?
Ah, retoucher ? Parce que voilà. Vous le mettez la nuit, le matin, et après vous retouchez, c'est ça ? C'est quoi jeûner ? C'est quoi jeûner ? C'est ne pas manger, ne pas boire et ne pas avoir de relations intimes. Voilà. Après, voilà. Tout le reste, vous avez le droit de faire. Il n'y a pas de problème. Maintenant, ramadan ou pas ramadan, est-ce qu'il est bien pour une femme de sortir dehors maquillée parce que voilà, elle va être dans une démarche de séduction. Elle va séduire qui ? Voilà. Moi, je pense qu'une femme doit se maquiller pour son mari. Normalement, elle est censée se maquiller pour son mari et voilà parce qu'elle est dans une démarche d'être fidèle à son mari et donc elle ne doit plaire et d'avoir l'intention que de plaire qu'à son mari.
Elle se maintenant, pas si pour c'est elle-même ?
Non, parce qu'on se promène pas avec un miroir dans la rue. Si tu te promènes, si tu mets un maquillage pour toi-même et que tu te promènes avec un miroir, ok. Mais est-ce que tu te promènes avec un miroir dans les mains ?
Ça ne veut pas d'être dans
un
miroir.
Bah oui, parce qu'il faut le voir. Ton maquillage, si c'est pour toi, il faut le regarder. Donc ça veut dire que tu te promènes avec un miroir.
C'est pour se sentir belle, c'est tout.
Non, pas se sentir. On se sent pas. Faut regarder.
Mais pour être belle.
Donc pour être belle, pour qui ?
Pour soi et ceux qui nous regardent.
Non, faut pas me dire des bêtises. Si c'est pour toi, ça veut dire que tu as un miroir, tu te regardes.
Non,
monsieur Atman. Maintenant, si le maquillage est light, c'est-à-dire qu'il est presque invisible, il est juste pour donner un aspect agréable à son visage, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où on passe à un maquillage, on va dire, provocateur.
Mais là, on parle pas de ça. On parle pas de maquillage provocateur. On parle d'un maquillage normal.
Un maquillage, c'est
saupoudre un peu.
Un maquillage, ça peut être aussi rouge à lèvres vif avec un mascara, avec plein de choses sur le visage. Ça peut être un maquillage, c'est
avec,
un maquillage
avec des faux cils.
Avec des faux cils,
ouais,
etc. Donc tout ça est prohibé pour une musulmane qui veut respecter les préceptes de l'islam. À partir du moment où elle le fait dehors et qu'elle n'a pas besoin de séduire quelqu'un d'autre que son partenaire, que son mari, que son avec l'homme avec qui elle a donné, elle s'est engagée et c'est lui qu'elle doit séduire, pas quelqu'un d'autre. Pourquoi imposer ça aux femmes en plus ? Pourquoi leur imposer tous les matins devant le miroir, casse-tête ? Pourquoi d'abord on n'impose pas aux hommes ? Pourquoi c'est vous les femmes qui doivent faire ça ?
Parce que les hommes et les femmes sont pas pareils.
Mais pourquoi? Alors pourquoi toi tu mets pas du maquillage, rouge à lèvres et du mascara?
Pas à la radio.
Parce que c'est pas un signe distinctif.
Mais vas-y.
Féminin. Et en alors, tous les cas.
Mais non, faut ça rentre pas le gène. Arrêtons d'imposer ça aux femmes. Moi je dis une femme, si elle doit s'embellir, c'est pour son mari. قال تعالى ولا يبدين زينتهن
إلا ما ظهر منها.
إلا ما ظهر منها. إلا ما ظهر منها وليس ما أظهرت منها. فرق بين ظهر la beauté que tu as, que Dieu t'a donnée, tu as le droit de la montrer parce que c'est Dieu qui te l'a donnée. Mais ma avharta, ce que toi tu ajoutes pour t'embellir, ça c'est pas autorisé.
Bon.
Du moins, sauf si tu l'as fait, comme le Coran le dit, pour ton mari, comme le dit le verset, pour ton père, pour ce qu'on appelle les maharim. Illa li bu'ulatihinna ou abaihinna ou ikhwanihinna ila akhiri ou abnaihinna ila
akhiri. En tout cas, ça rompt pas votre jeûne. Voilà.
Voilà, ça, en tout cas, oui. Ça ne rend pas les
jeunes. Il y en a beaucoup qui vous écoutent, hein, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui se maquillent aujourd'hui. Hein.
Ah bah si, ça les.
Non, mais moi, en tout cas, je retiens la proposition de me maquiller. Je n'accepterai jamais de me maquiller.
On impose aux femmes encore aujourd'hui à se barbouiller le visage et qu'on ne l'impose pas aux hommes. Et voilà.
Égalité.
Non, mais c'est pas normal.
Je pense qu'il faut poser la question à Kamel Chekat. Je suis sûr que ça va l'intéresser.
Ce que doit vendre une femme, ouais, c'est vrai, et doit vendre, c'est son intellectuel et ses compétences et ses capacités culturelles et intellectuelles. Pas son corps. Son corps, il est pour son mari, pour personne d'autre. Voilà, ça c'est mon avis, c'est ma philosophie, c'est à prendre ou à laisser, c'est peut-être archaïque, mais c'est comme ça.
Bien, alors Kamel Chekat est avec nous, chercheur en théologie, membre fondateur des Oulémas du Sahel. Bonsoir et bienvenue Kamel.
Salam alaikum.
Wa alaikum salam. Wa
alaikum salam. Et Cheikh Sili aussi.
Voilà, c'est ça, exactement. Merci Kamel.
Je t'en prie mon frère. Alors, là on s'était arrêté hier j'ai fait la lecture de 4 versets de Sourate Fussilat du verset 9 au verset 12 et qui contrairement à tous les versets cette fois en tout cas dans le Coran qui parle d'une création de l'univers ou des cieux et de la terre qui a duré 6 jours c'est-à-dire 6 périodes très très longues apparemment et ces versets quand on les lit ou du moins certains sites. Ça peut être des sites évangélistes, ça peut être aussi des sites athéistes d'Orient qui ont dit qu'il y avait là une contradiction et que ces versets parlaient d'une création de l'univers en 8 jours. Alors que les versets, on va les relire, alors le verset 9 dit « Renierez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours et lui donnerez-vous des égaux, tel est le Seigneur de l'univers. » Ensuite, c'est lui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle, l'a béni et lui a assigné ses ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. Telle est la réponse à ceux qui t'interrogent. Le verset qui vient ensuite, il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé, lui dit « Ainsi qu'à la terre, venez tout de bon gré malgré tout de dire, nous venons obéissant. » Et enfin, décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours, et révéla à chaque ciel sa fonction. Et nous avons décoré le ciel le plus proche de l'ampe. Beaucoup de traducteurs ou même d'exégètes disent que c'est des étoiles. Et l'avons protégé, tel est l'ordre établi par le puissant, l'omniscient. 2 jours pour la création de la terre, 4 jours pour son agencement. Et puis, il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours. Ces versets, selon certains, constitue une contradiction flagrante et donc nous avons donc expliqué hier dans un exemple que nous avons donné que les 2 jours de la création de la terre s'intègrent dans les 4 jours du verset 10 qui parle d'un agencement de la terre et là il faut comprendre une chose, nous avons une singularité initiale, donc un Big Bang qui démarre à un instant T. Et à partir de cet instant, de toute manière, depuis cet instant, la création se fait en continu, elle est continue. Vous avez un univers en expansion, vous avez le bouclier de Kelvin qui ne cesse de s'agrandir, donc la création ne s'est pas arrêtée, elle est toujours en cours. Et nous avons hier donné un exemple, je vous dis, je vais à Marseille, de Marseille à Strasbourg en bus, il me faut un jour pour arriver à Paris, et ensuite je dis, et 2 jours pour arriver à Strasbourg. le premier jour, de ce qui est la durée du premier jour, s'intègre dans les deux jours. C'est comme si je disais aussi, nous avons construit une mosquée, le minaret, ça a pris 6 mois, la salle de prière et tout son agencement, ça nous a pris 8 mois, puis là où on fait les ablutions, ça nous a pris 1 année. Une année plus 8 mois plus 2 mois, bon, enfin, on peut dire aussi autre chose. Tout ça, ce sont des détails qui s'intègrent dans les 1 année de construction ou je ne sais quoi. Donc, hier, je vous disais, mon déplacement s'est-il fait en 1 jour ou en 2 jours? Il est clair que mon voyage n'a duré que 2 jours, le premier jour jusqu'à Paris, s'ajoutant au second jour de Paris jusqu'à Strasbourg. Mais supposons que les deux versets comptabilisent donc 8 jours. Les 2 jours de la création de la terre en 2 jours du verset 9 ajoutés aux 4 de son agencement, ceux dont parle le verset 10, et même si, on parle de la terre uniquement, mais même si là nous arrivons à 6 jours uniquement pour la terre, où est le problème, puisque les versets 11 et 12 nous disent il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé, lui dit, ainsi qu'à la terre, venez tout de bon gré malgré, tout de dire, nous venons obéissant. Donc, remarquez bien, il s'adresse au ciel qui est fumé. Ensuite, au verset 12, dans ce même siècle dont la formation a commencé, il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours et révéla à chaque ciel sa fonction. Donc vraiment, ces versets de Sol-Tzotzilat, qu'on traduit par les versets détaillés, est en train de nous détailler tout simplement les 6 jours de la création. Ensuite, il est dit, et nous avons décoré le ciel le plus proche de lampe, étoile, et l'avons protégé, tel est l'ordre établi par le puissant, l'omniscient. Ce qui veut dire que le ciel était déjà en cours de formation, et que cette formation va s'achever en 6 jours, mais la formation des 7 cieux, c'est-à-dire des 7 dimensions cachées pratiquement de l'univers, comme le stipule le verset 12, va se faire en 2 jours. 2 jours qui sont inclus dans les 6 jours de la création dans sa globalité. En fait, nous sommes, comme je le disais, après la singularité initiale, cette fameuse explosion appelée le Big Bang, le processus concerne tout l'univers. Et ces versets nous donnent le détail concernant différentes parties de cet univers en termes de formation. Et ce qui est bien, c'est que le verset 12, il est dit, puis il s'est adressé au ciel qui était fumé. Et là, lisez toutes les cosmogonies que vous pourriez trouver. Vous ne trouverez nulle part cette allusion à cette fumée. Cette fumée a pendant longtemps été qualifiée par les astrophysiciens de poussière d'étoiles. Mais les données actuelles de la science parlent de particules plus fines que celles de la fumée d'une cigarette. C'est donc bel et bien une fumée qui date des premiers instants de la vie de l'univers, plutôt que de la poussière d'étoiles. Mieux encore, dans la description de ce début de formation du ciel, le verset 12 nous dit que Dieu s'est adressé au ciel et à la terre et leur a dit venez bon gré mal gré. Peut-on imaginer, certains vous diraient ça c'est une fable. Bon, déjà, comment peut-on, surtout pour les athéistes, vous nous parlez d'un Dieu dont vous n'arrivez pas que vous n'avez jamais vu, etc. Prouvez-nous réellement qu'il existe. Moi, généralement, je dis aux athéistes, c'est vous qui êtes des illuminés. Alors, c'est à vous, normalement, de nous démontrer à nous, les sclérosés mentaux, les religieux, que Dieu n'existe pas, ce qu'il n'arrive toujours pas à faire. Mais le verset nous parle d'un dialogue entre Dieu et cette création. Il dit aux cieux et à la terre, venez bon gré mal gré, et tout de dire, nous venons obéissants. Athéna pas Irine. Eh bien, figurez-vous qu'il y a actuellement, il y a une multitude d'études. Moi, je me base sur une étude d'un certain un astrophysicien et chercheur à l'université de Stony Brook de New York, Paul Sutter, qui a publié un article, enfin suite à une étude, en juin 2019. Le titre, c'est « The early universe cried like a baby, and we can still hear it ». Le début de l'univers, ou l'univers primitif, pleurait comme un bébé, et nous pouvons toujours l'entendre. À un moment donné, donc, lorsque l'univers, selon cette étude, n'était âgé que de quelques 380 000 ans, c'était une masse super compacte, et ça poussait des cris. Donc là, je ne vais pas dire que ce dialogue, c'est ce même cri qui est décrit dans l'article de ce scientifique, mais il y a vraiment matière à chercher, à explorer toute l'étendue de ce que pourrait donner comme enseignement ces versets-là. Donc il n'y a pas de contradiction, contrairement à ce que l'on pourrait croire ou penser de prime abord. Et puis dans ce fameux verset, il y a ce que Jacques Berck appelait une insupérabilité scientifique, qui parle non pas de poussière d'étoiles dans l'univers primitif, mais de fumée, comme le dit le verset, et l'existence de cette fumée a bel et bien été confirmée grâce à la lumière des quasars au tout début de l'univers. Voilà donc pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Haftorkom et puis.
Salamak Cheikhna al-Fadl. Shukran al-Faida wal-Fawaid al-Mubarak al-Munira. Merci pour ces lumières et ces connaissances qui nous permettent de renforcer notre foi. Allah Jazakher. Merci.
Kamel Chekat, tous les soirs du mois de Ramadan sur Beurre FM. À demain, Kamel. Et vous le savez, tous les soirs, Beurre FM vous gâte grâce à Mo, le patron. Si vous êtes le very important auditeur de la soirée, eh bien vous repartirez avec une télé connectée de 32 pouces ou un aspirateur robot. Donc, il va falloir nous appeler tout à l'heure au top départ pour pouvoir remporter ce cadeau. Je rappelle que Mo, le patron, c'est 4 adresses à Paris, Mme Abdelali. Pas à Paris, en France.
Oni d'abord, ouais. Dans le 95, à côté de Cergy. Buchelet, dans le 78, à côté de Mantes-la-Jolie. À Toulouse, j'ai oublié le nom du village, là.
Aucanville,
donc à côté de Toulouse. Donc c'est Mo, le patron. M-O-H, le patron, plus loin.
Et à Tourcoing.
Et à Tourcoing, dans le nord. C'est donc le sud, le centre et le nord. Voilà, et ils sont partout, alhamdoulilah.
Et vous avez inauguré notre nouveau frigo.
Voilà, effectivement, il est génial. Très bien. Un cadeau qui nous a été fait par Mo, le patron.
Ouais, hier. Ce matin, vous l'avez inauguré, le frigo, là.
Oui, tout de suite, là. Ouais, après-midi, je dirais même. Non, mais il est venu hier. Il est arrivé hier. Bon, tu sais qu'un frigo, il y a une règle, c'est que quand tu le manipules, il faut le laisser se reposer pour que les gaz, là, je ne sais plus quoi, à l'intérieur, ils se remettent. ils redescendent vers le bas. Voilà. D'après notre technicien.
S-gaz.
Je suis pas trop spécialiste, mais c'est vrai qu'un frigo, je crois, on peut pas l'allumer tout de suite quand on l'installe.
À cause des gaz.
À cause des gaz, voilà.
C'est ça, bien. Dans un instant, c'est Ousmane Timira qu'on retrouve. Et vous le savez, on a tous rêvé de changer le monde sur Beurre FM.
Ramadan & Co revient dans un instant.
Suivez Ramadan & Co avec le Secours Islamique France.
17h-20h, Ramadan & Co avec Philippe Robuchon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
Et on rêve tous de changer le monde avec Ousmane Timira.
Oui, on rêve tous de changer le monde, comme disait le rappeur. Et Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dieu ne change pas la situation d'un peuple tant que les membres de ce peuple ne changent pas ce qu'ils ont en eux-mêmes. Et cela veut dire que le changement est de la responsabilité de chacun et de chacune d'entre nous. Le changement est en toi. Tu en es responsable. À quel moment décideras-tu de te lever, de fixer des objectifs, de t'y tenir et d'y arriver? Il s'agit de cela comme attitude. Échanger donc de regard et de vision. Nous sommes dans un monde qui s'effrite, au bord peut-être d'une troisième guerre mondiale, qui n'est en fait que la suite de la guerre mondiale économique que les grandes puissances se livrent, et dont un certain nombre de pays sont les victimes. et le terrain au fond de jeu, de puissance qui s'interpose, qui se frappe et dont les victimes se trouvent nombreux parmi nous. Il faut comprendre le monde dans lequel nous nous trouvons. Imaginer une stratégie, une vision de sortie de crise. Être force de proposition. Quatre étapes qui mettent au fond en situation d'écroulement notre ordre international et peut-être notre civilisation. Première impact, c'est l'impact économique. En 2008, tout d'un coup, des millions de personnes se retrouvent sans rien, au chômage, dégagées, leurs maisons vendues. C'est là les limites du système néolibéral dans lequel nous nous trouvons. Après la grande victoire contre le parti soviétique, l'empire soviétique, nous croyons qu'il c'était là la fin de l'histoire, que nous étions dans le clash des civilisations qui allait nous permettre de nous imposer à l'ensemble du monde. Notre système est le meilleur, libéral, néolibéral. Tout est donné au capital, patatras. En 2008, tout s'est écroulé. La main invisible du marché s'est complètement fracassée. Accident ? Non, fatalité. Nous le savions. On ne peut laisser au marché automatiquement le soin de prendre soin de nos vies. Tout s'est écroulé. C'est la première étape de l'écroulement du système. Deuxième moment extrêmement fort qu'il faut prendre en considération, c'est la fin de la mondialisation. Un Covid, un virus et est venu complètement arrêter toutes les machines. Nous avons été complètement enfermés, confinés, et la mondialisation s'est rétrécie. Nous avons vu qu'il y avait un frein à l'industrie internationale, aux échanges internationaux. Le côté économique s'est aussi écroulé en même temps que le côté industriel. Troisième épisode, c'est bien sûr la guerre d'Ukraine, où nous avons vu au fond des puissances s'affronter. L'uniforme puissance internationale qui appartenait aux États-Unis et qui s'imposait s'est vu sérieusement rivalisé par des puissances montantes qui ont pris le temps durant les 20 années de folie américaine à vouloir s'en prendre du côté de l'Asie, en Afghanistan, en Iran, dans des guerres qui ne valaient rien du tout qu'à montrer leur superpuissance. Durant cette erreur stratégique et tactique et de vision, eh bien, la Chine, la Russie, les pays asiatiques ont pu avoir le temps de prendre du poids, de tutoyer les États-Unis et l'Occident. Et cela s'incarne dans le conflit en Ukraine où, au fond, le droit, la suprématie internationale de l'Occident est sérieusement remise en cause, et ce depuis 500 ans. Cela n'est jamais arrivé. Enfin, c'est sur le plan symbolique. Si effectivement l'Ukraine a mis en évidence la faiblesse politique de l'ordre international et la rivalité entre les grandes puissances, eh bien Gaza et ce qui se passe en ce moment met à nu la fragilité symbolique, gaspille complètement et vide complètement le peu de force morale qui appartenait à l'ordre international. Ces quatre épisodes marquent la fin d'une époque et rendent nécessaire de penser, de repenser les rapports de force et de savoir à partir de là comment nous allons nous positionner. Nous, en France, nous, musulmans, nous, en Afrique, nous, en Asie, nous, en tant que Oumma, nous, en tant que personnes qui avons l'ambition d'impacter le monde. Il faut donc comprendre le monde dans lequel nous nous trouvons. Or, ce monde a besoin de quelque chose sur le plan symbolique qui l'unit, qui permet à ce que tous les êtres humains, membres de la famille humaine, se sentent appartenir à la même mission, à la même dignité. Non pas en fonction de la couleur de peau, non pas en fonction de la religion, non pas en fonction du rang social. En réalité, la démocratie, ce que nous appelons l'Occident, a été mise en échec sur la réalisation de l'égalité entre tous les êtres humains, quelle que soit leur race, leur couleur de peau, quelle que soit leur religion et quel que soit leur rang social. C'est cela, au fond, qui marque l'échec du système dans lequel nous nous trouvons et qui continue de détruire aussi bien notre environnement spirituel que notre environnement naturel.
il faut donc penser à un autre projet, une autre vision, où Dieu n'est pas l'ennemi de l'homme, où l'homme n'est pas jaloux du divin, où la nature n'est pas une chose que l'on doit posséder et détruire, où la spiritualité, l'environnement intérieur de nos esprits, de nos êtres, ne sont pas des terrains de colonisation pour des pubs et des marketings qui nous bousillent le cerveau pour nous rendre soumis au moindre petit instinct et désir d'achat compulsif. Il faut donc nous sauver de tout cela, avoir une vision, une pensée, où l'économique est au service de l'humain, où les bienfaits de l'environnement sont dignement partagés et égalitairement partagés entre tous ceux qui doivent en bénéficier, c'est-à-dire tous les êtres humains, où ce que nous faisons avec la planète doit être considéré comme une relation, une collaboration avec une nature qui a été mise à notre service par le divin transcendant. Une vision du monde où il n'y a pas d'opposition entre le temporel et le spirituel, ni d'uniformisation, mais une distinction et une relation, parce que les moyens ont besoin de finalités pour les orienter et les finalités ont besoin de moyens pour se réaliser. Il s'agit de penser une société, de penser une humanité où les différentes religions et traditions philosophiques et culturelles sont, ne se pensent pas en supériorité les unes par rapport aux autres pour s'écraser, mais comme étant des expériences humaines de l'humanité infinie sous le regard divin miséricordieux cordieux qui doivent apprendre à dialoguer, que dis-je, à s'entreconnaître comme dit le Coran. Penser des projets d'entreconnaissance entre les différentes cultures. Penser des projets d'investissement sur le plan économique pour une éducation qui nous rend hommes, qui nous rend femmes, qui nous rend souverains de nous-mêmes, qui nous rend intelligents et non pas en fonction des besoins du marché. Pensez les modalités d'un ordre international où ce n'est pas juste 5 pays qui décident sur la tête de tout le monde et qui sont d'ailleurs chargés de la sécurité internationale, les plus grands vendeurs d'armes que l'histoire ait jamais connus. Nous donnons notre sécurité à ceux qui ont intérêt à la guerre. Un monde international où une voix d'un pays vaut réellement une autre voix d'un autre pays, sans tenir compte effectivement de la puissance économique ou de la du pacte impérial et racial qui fonde l'ordre international et qui écrase les gens qui nous ressemblent. Oui, c'est de cela dont il s'agit. C'est l'enjeu qui est présent ici, à l'aune d'une vision où Dieu est miséricordieux et proche, où l'être humain est digne et lieutenant de Dieu sur terre, où la nature est une partenaire qui a été mise en service pour nous et nous aide à nous accomplir en humain, où les différences entre les êtres humains ne sont pas vécues comme une insulte, mais plutôt comme une occasion de s'entreconnaître. C'est ce projet qu'il faut aujourd'hui fonder. C'est utopique ? Non. L'utopie, c'est de continuer dans la voie dans laquelle nous nous trouvons et qui, à coup sûr, nous mènera vers la destruction. Il faut penser quelque chose qui dépasse, penser quelque chose qui crée, au-delà de ce monde, au-delà du système que les aveugles d'aujourd'hui pensent incontournable. Avant l'écroulement, réveillons-nous.
Ousmane Timéra, tous les soirs sur Beurre FM. Imam Abdelali, je rappelle qu'il va falloir vous chauffer la voix.
Là, on n'a pas simplement un discours religieux, on a un discours réaliste et préventionniste. C'est bien.
19h03 pour l'ADEN en direct sur Beurre FM.
Ramadan & Co revient dans un instant.
Suivez Ramadan & Co avec le Secours Islamique France.
17h-20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM. Beurre FM, Ramou Vision, le Coran en arabe et sa traduction en français.
A'oudhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.
Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux.
إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون.
En vérité, ceux qui ne croient plus après avoir eu la foi et laissent augmenter encore leur mécréance, leur repentir ne sera jamais accepté. Ceux-là sont vraiment les égarés.
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ.
Ceux qui ne croient pas et qui meurent mécréants, il ne sera jamais accepté d'aucun d'eux de se racheter, même si, pour cela, ils donnaient le contenu en or de la terre. Ils auront un châtiment douloureux et ils n'auront point de secoureur.
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.
Vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Tout ce dont vous faites largesse, Allah le sait certainement bien.
كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
Toute nourriture était licite aux enfants d'Israël, sauf celle qu'Israël lui-même s'interdit avant que ne descendît la Torah. Dis-leur, apportez la Torah et lisez-la, si ce que vous dites est vrai.
فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون.
Donc, quiconque après cela invente des mensonges contre Allah, ceux-là sont donc les vrais injustes.
قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
Dis, c'est Allah qui dit la vérité. Suivez donc la religion d'Abraham, musulman droit. Et il n'était point des associateurs.
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين.
La première maison qui ait été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Bakka, la Mecque, bénie, et une bonne direction pour l'univers.
فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
Là sont des signes évidents, parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout. Et quiconque y entre est en sécurité. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. Et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes.
أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون.
Dis, ô gens du livre, pourquoi ne croyez-vous pas aux versets d'Allah, al-Qur'an, alors qu'Allah est témoin de ce que vous faites?
قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون.
Dis, ô gens du livre, pourquoi obstruez-vous la voie d'Allah à celui qui a la foi? Et pourquoi voulez-vous rendre cette voie tortueuse alors que vous êtes témoins de la vérité? Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites.
يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين.
Ô les croyants, si vous obéissez à un groupe de ceux auxquels on a donné le livre, il vous rendra mécréant après que vous ayez eu la foi. Et comment pouvez-vous ne pas croire, alors que les versets d'Allah vous sont récités et qu'au milieu de vous se tient son messager? Quiconque s'attache fortement à Allah, il est certes guidé vers un droit chemin.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
Ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en pleine soumission.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
Et cramponnez-vous tous ensemble au Habl, Kabl d'Allah, et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis, par son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvés. Ainsi, Allah vous montre ses signes afin que vous soyez bien guidés.
Retrouvez tous les programmes du Ramadan en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.
L'appli Beurre FM.
Beurre FM. Le Ramadan, 30 jours avec vous.
30 jours avec vous.
Voilà, dans quelques minutes, l'auditeur VIP, on vous donnera le top départ. Mais Ousmane Timera, une sourate bien comprise.
Oui, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. C'est ce passage-là qui parle du but, de la finalité, de ce pourquoi le prophète Mohammed sur lui la paix a été envoyé. Nous ne t'avons envoyé que pour la miséricorde, pour l'ensemble des mondes. Et c'est pour ça que j'aime le prophète, alayhi salatu wassalam. Lorsqu'on voit l'ensemble de son attitude, de son être, même dans les moments de combat, tout n'est que miséricorde, tout n'est que volonté de propager cette miséricorde qui lui a été demandée de transmettre au monde. Le Coran est une miséricorde, il est lui-même miséricordieux. Et je me souviens du poème que j'avais à un moment donné écrit sur le prophète Mohammed, sur lui la paix, où je relatais cet épisode extraordinaire où il était là avec ses compagnons en train de discuter et il voit tout d'un coup un oiseau qui tournoie dans le ciel et il s'arrêta et il remarque. C'est dire la sensibilité. Vous avez un chef d'État, un chef d'armée, vous avez une personne qui est prophète de Dieu, qui est là en train d'éduquer une communauté entière. Et là, un oiseau attire son attention. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi l'oiseau tourne-t-il autour de nous? Et là, il se rend compte qu'en fait, l'oiseau est à la recherche de son nid qui a été déplacé. Et rendez-lui son nid. L'amour du maire est démentiel. Et ils vont donc imaginer, donc les Abou Bakr, les Omar, les grandes personnes que nous respectons, essayer de trouver ce fameux nid et le mettre à la place où il faut. C'est cette miséricorde qui, en réalité, cette qualité d'âme, cette sensibilité intense qui a fait qu'il a marqué autant tous ceux qui l'ont approché de près ou de loin et qu'il continue de nous marquer. Et c'est ça, en fait, ce passage-là dit que l'ensemble du Coran, de son ordre, ça vise la miséricorde. Et que tout ce qui va à l'encontre de cette miséricorde est en fait un rajout qui ne correspond pas au message initial. Et cette miséricorde, j'aimerais que nous la portions aujourd'hui pour, bien sûr, nos auditeurs, mais au-delà pour la France et pour toute l'Europe. Soyons cette miséricorde que le prophète nous a demandé de propager.
Masha'Allah, Allahumma barik. Et puis que ce mois du Ramadan soit aussi le mois de la miséricorde, c'est important. Awwaluhu rahma.
C'est ça.
Awsatuhu maghfira. Nous sommes encore dans la décade de la miséricorde. C'est important de faire preuve de miséricorde.
Première décade, c'est la
miséricorde. Ouais. C'est la miséricorde divine, surtout. C'est celle que nous comble Allah Azza wa Jalla, notre créateur, durant cette première décade, puisqu'elle s'adresse surtout aux pratiquants, ceux qui sont assidus, ceux qui connaissent le jeûne du Ramadan, qui connaissent sa valeur et le vivent dès le début intensément. Ceux-là sont comblés de la miséricorde. Alors que la deuxième décade, c'est plutôt pour ceux qui étaient un petit peu dans l'erreur, dans l'égarement. Bah, ils ont besoin plutôt de pardon de Dieu. Donc ça sera une deuxième décade de pardon. Et puis pour les derniers, les plus éloignés, ceux qui ont besoin d'attendre jusqu'à la fin du Ramadan pour enfin ressentir cette présence divine qui descend dans le ciel de ce bas monde, eh bien vont obtenir d'Allah l'affranchissement de l'enfer. Comme dira le prophète alayhi salatu wassalam. Voilà, c'est ça le mois du Ramadan.
Pourquoi l'affranchissement de l'enfer?
Parce que justement, ils étaient voués à l'enfer. C'est-à-dire ces personnes-là qui n'ont ressenti le Ramadan que vers la fin, qu'ils ont eu besoin que se passent deux décades pour enfin sentir la fraîcheur de la spiritualité de ce mois béni et donc obtenir d'Allah le pardon parce qu'ils se sont repentis, sont bien entendu affranchis par Dieu. Sont affranchis de l'enfer par la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala.
En tout cas, celui qui le Ramadan, c'est comme les soldes. Si t'as pas pu acheter ce qu'il faut, t'as perdu ton année. Donc, si t'as pas pu mériter le pardon de Dieu, c'est que vraiment tu l'as pas voulu.
C'est ça, effectivement. C'est ce que le prophète a dit quand il est monté sur le minbar. Man adraka Ramadan wa lam yughfar lah. Celui qui a atteint le mois béni du Ramadan qui n'a pas été pardonné, dira le prophète Bo'adan. Non, c'est Jibril qui dira. Bo'adan. Le prophète dira Amin. Qui soit éloigné, Amin. Le prophète dira Amin. Alors qu'il est en train de escalader sa chair du vendredi.
Donc ça, c'est important, surtout cette miséricorde, on a besoin de la sentir entre nous. Et malheureusement, je ne sais pas quel type d'éducation nous avons dans notre spiritualité. Ça manque beaucoup. Il y a beaucoup de dureté, beaucoup d'enfer, beaucoup de punition, beaucoup de c'est haram, beaucoup de tu vas voir. On fait peur à nos enfants, on fait peur à nos épouses. On est dans une sorte de rigueur qui est censée représenter ce que nous pensons d'être de Dieu. Or Dieu, Nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim. Informe mes serviteurs que moi, Dieu, personnellement, je suis pardonneur et miséricordieux. Je ne suis pas dur.
Alors, Imam Abdelali.
Oui, mon numéro de téléphone pour poser vos questions hors antenne, c'est le 06 29 25 35 00. Alors, je rappelle que c'est aussi le numéro pour vous inscrire pour le petit pèlerinage, la Umra, du mois de mai. Le 1er mai, je pars, Inch'Allah, jusqu'au 11 mai, du 1er au 11 mai, pour ceux à qui ça intéresse de passer un moment de spiritualité, d'enrichissement culturel et spirituel. Le 06 29 25 35 00. Je propose aussi, après le Ramadan, le 12 avril,
une semaine dans un gîte un peu isolé dans lequel on peut se organiser une sorte de retraite spirituelle dans la foi mais aussi dans le plaisir d'une piscine privée, notamment pour les femmes qui ont envie de pouvoir pratiquer la natation tout en préservant leur leur pudeur, etc. Et leur voilà. Donc c'est ceux qui sont intéressés, 06 29 25 35 00. Et puis je vous dirai au téléphone tous les loisirs qu'on pourra profiter dans ce séjour du 12 au 19 avril prochain.
Bien, Inch'Allah. Si vous voulez être le very important auditeur de ce soir, c'est maintenant que vous composez le 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. Et c'est peut-être vous qui serez avec nous dans un instant pour justement remporter un cadeau proposé par Maul Patron. C'est soit la télé, hein, 32 pouces connectée, soit le robot aspirateur d'une valeur de 200 euros. Bien, alors 01 53 48 3000, vous êtes arrivé. On va demander à Mike qui nous a rejoint.
Mike,
bonsoir,
vas-y.
Mike. Alors,
approche
Mike,
le micro,
tu as
Mike.
Le micro qui est là.
Bonjour Mike, ça va?
Bonsoir, oui, et vous?
Ça va bien. Bonsoir. Bon, tu as la lourde tâche.
On va faire travailler ce soir. Hein.
Il n'y a pas de souci.
Une lourde tâche, comme a dit Philippe.
Bon, il faut donner un numéro entre 1 et 6.
Alors, je vais donner le numéro 5.
5.
Alors, mon chiffre à moi.
Comme Ousmane.
C'est le chiffre de la
fille. C'est bien, Mike, t'es un bon gars.
Alors, qui est sur la ligne numéro 5?
Oui.
Ah. Oui, bonsoir et bienvenue.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, c'est Mike qui t'a fait gagner le cadeau ce soir.
Vous êtes le very important auditeur, c'est vous qui terminez la journée avec nous.
Grâce à Mike, il faut le préciser.
Bah, les koum, ça. Comment vous appelez-vous?
Salah.
Salah. Bien. Et d'où nous appelez-vous?
Le vertueux.
D'où nous appelez-vous ce soir, Salah?
Alors, je vous appelle de Gonesse.
Bien. Alors, on entend des petites voix derrière vous. Avec qui êtes-vous ce soir?
C'est mes enfants.
Ouais. Alors vous pouvez les appeler par leur prénom, hein, qui y a autour de vous?
Alors c'est Naïl et Aymen.
D'accord.
Machallah.
Alors est-ce qu'il y a des gens à qui vous voulez passer un message plus particulièrement ce soir?
Allez, comme salam. C'est Naïl ou c'est Aymen ça?
C'est Aymen.
Tu t'appelles comme mon fils?
Allez,
comme salam, Aymen. Ça va?
Oui, ça va, et vous?
Rabbi hafdak, Allah te préserve, Habibi. كالله آمين صح فطوركم صح فطورك إن شاء الله ربي يحفظك تكلاج أيمن
تتعلمي
آه بس سير جو سير سير تي ان سي 1
ميرسي
تي ان سي 1 آه اتان
سا سي ان فون
تي ان سي 1 او با أيمن
Oui.
Bah oui, oui.
Voilà, c'est raison. Bien, c'est intéressant. Salah, qu'est-ce que vous choisissez ce soir, une télévision ou un aspirateur?
Alors j'ai besoin d'un aspirateur pour la voiture.
Bon, ah oui, surtout qu'il est sans fil, ouais, t'as raison.
C'est parfait, donc Maul Patron vous l'apporte en personne bientôt chez vous.
Super.
Je voudrais juste faire un petit dédicace à ma cousine, je sais qu'elle écoute, Nora, elle habite à Arnaudville.
Eh, ça vaut des points, voilà. La dédicace sur Beurre FM c'est juste avant l'ADEN, alors là, le monde entier écoute. Ah, merci Salah, merci. Et puis bon ramadan à vous.
Ramadan Mubarak.
Couscous Dari vous souhaite un bon ramadan. Sksodari, Meirtadari. Vivez un ramadan solidaire avec Muslim Hands, 25 ans d'humanitaire à travers le monde.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة الصلاة
حي على الفلاح. الله أكبر الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. تقبل الله صيامنا وصلاتنا وسائر أعمالنا بمزيد من الأجر والثواب، آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.
كسكس داري كتمنى لكم شهية طيبة. سكسو داري ما يخطى داري. Bon appétit avec Muslim Hands. Muslim Hands, votre partenaire humanitaire.
كنت قنبرة فاميت من لكم شهية طيبة صحاف طركم.
Retrouvez Ramadan & Co tous les jours de 17h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.
Ramadan & Co vous a été présenté par le Secours Islamique France. Vos dons changent des vies. Agissez aux côtés du Secours Islamique France. Ramadan, votre générosité fait toute la différence.